Heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 110 du 31 mars 2025. Au sommaire, la campagne électorale fédérale après une semaine, où sont les queers et les trans, Alexandre Duval et sa chronique politique. Bien justement, c'est la journée de visibilité trans, on en discute avec la juriste Céleste Trianon. Et on parle de transition quand on est plus âgé et qu'on vit en région, avec Claude Amiotte. Les dangers de voyager aux États-Unis à la chronique Make America Queer Always avec Chantal Nadeau et l'influence des mouvements sociaux en politique à la chronique En toute fluidité avec Marie-Claude Joannis.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
I'm not aware of any other genders than men and women. I mean, if you have any other that you want me to consider, you're welcome to tell me right now.
Female spaces should be exclusively for females, not for biological males.
Politique fédérale et diversité. Avec Alexandre Duval.
Bon, on vient d'entendre donc deux déclarations de Pierre Poilievre, le chef conservateur, sur les enjeux trans. Donc, il n'y a que deux genres selon lui, hommes et femmes, et il n'y a pas de place dans les vestiaires pour les athlètes féminines trans dans les vestiaires féminins. Alors, on est au 9e jour de la campagne électorale et les enjeux LGBTQ+, n'ont pas vraiment émergé dans le débat public et au sens large. On a pu quand même observer en arrière-plan une première tentative d'instrumentaliser ces enjeux-là pour décrédibiliser le chef du Parti libéral du Canada, Mark Carney. On en discute avec Alexandre Duval, qui est enseignant en sciences politiques au Cégep Garneau à Québec. Bonjour, Alexandre.
Salut, Denis Martin.
Alors, ce qui s'est passé, donc, à la mi-mars, un site web d'affiliation conservatrice a décidé de fouiller dans la vie familiale de Mark Carney.
Ouais, c'est une histoire, Denis Martin, qui est un petit peu passée sous le radar parce qu'elle s'est passée avant le déclenchement de la campagne électorale. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que le site web anglophone Juno News a publié un article au sujet d'un des enfants de Mark Carney pour dire que cet enfant-là s'identifiait comme non-binaire puis que cet enfant-là était un activiste trans, une personne activiste trans. Donc là, la question que ça pose, Denis Martin, c'est: est-ce que c'est vraiment d'intérêt public, cette histoire-là? Est-ce qu'on peut parler de journalisme quand on fait une révélation sur la vie privée de l'enfant d'un chef de parti? Donc, moi, la question que ça m'amène, c'était quoi l'objectif de cette publication-là? Bien, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Juno News, donc le site web, c'est pas un média d'information traditionnel. C'est un site web qui prétend faire de l'information fiable et honnête. Il prétend aussi que la liberté d'expression a été mise à mal par Justin Trudeau au cours des 10 dernières années parce que Justin Trudeau aurait corrompu les médias traditionnels en les finançant avec de l'argent public. Juno News, c'est un site qui est mené par une femme qui s'appelle Candice Malcolm. C'est une ancienne employée de Jason Kenney, du temps où M. Kenney était ministre dans le gouvernement de Stephen Harper. Donc, tu comprendras, Denis Martin, que c'est un site qui est assez prisé par une certaine frange conservatrice au Canada. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a récemment donné une entrevue à Juno News pour dire, entre autres, que le Canada serait pire avec Mark Carney comme premier ministre qu'avec Justin Trudeau. Pierre Poilievre aussi a déjà donné des entrevues à Juno News. Donc, il y a une proximité idéologique très, très claire entre Juno News et certains conservateurs au Canada. Puis là, écoute, tu l'as un peu évoqué, mais Pierre Poilievre a des positions très tranchées là, sur les enjeux queer, voudrait un peu, comme l'Alberta l'a fait, éliminer au niveau fédéral le recours aux bloqueurs de puberté pour les adolescents, voudrait empêcher les femmes trans de participer à des compétitions sportives dans des catégories féminines. Donc, il ne faut pas s'étonner là, que la première utilisation des enjeux queer dans cette campagne électorale-ci, ça provient d'un site comme Juno News, parce qu'il y a une filiation très, très claire. Même si la révélation au sujet de l'enfant de Mark Carney ne vient pas du Parti conservateur à proprement parler, ne vient pas de Pierre Poilievre à proprement parler, d'un point de vue politique, c'est Pierre Poilievre qui peut bénéficier de cette information-là, parce que c'est une information qui est destinée à qui? Ben, une partie de l'électorat qui est très favorable à M. Poilievre, puis qui hésite peut-être entre M. Poilievre puis Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada. Récemment, dans La Presse, il y a l'éditorialiste Paul Journet qui nous rappelait que l'ancien chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, avait déjà dit publiquement « Hey, on devrait délaisser les médias traditionnels puis on devrait consulter davantage des sites dits indépendants comme le site True North. » Et True North, c'est quoi? Ben, c'est l'ancêtre de Juno News. Donc, True North qui était dirigé par Candace Malcolm et Juno News qui est dirigé par Candace Malcolm aujourd'hui. Donc, vous voyez, je pense que c'est le même monde qui se parle, en fait, dans toutes ces histoires-là.
Plus ça change, plus c'est pareil. Alexandre, on devine un peu où loge Mark Carney sur les enjeux queer, parce qu'on sait qu'il est dans une posture progressiste proche de celle de Justin Trudeau. Mais qu'est-ce qu'on peut dire des positions des autres principaux partis?
Ben, si on veut parler du NPD, là, du nouveau Parti démocratique qui est dirigé par Jagmeet Singh, ben là, c'est pas une surprise pour personne, on est dans une posture progressiste, c'est clair. En septembre 2023, là, quand il y avait eu les grandes manifestations anti-LGBTQ partout au Canada, Jagmeet Singh, très rapidement, avait fait une sortie publique pour dire « Écoutez, nous, au NPD, là, on soutient la communauté LGBTQ+, on va protéger les personnes trans. Oui, on comprend le désir des parents de s'investir dans l'éducation de leurs enfants, mais en même temps, les discours qu'on entend dans ces manifestations-là, ce sont des discours qui visent à s'acharner sur un groupe qui est vulnérable dans la société. » Puis Jagmeet Singh rappelait que oui, la famille, c'est une institution qui est importante, mais il y a des enfants pour qui la famille, ce n'est pas un espace sécuritaire. Puis Jagmeet Singh avait dit à ce moment-là quelque chose de très intéressant. Il avait dit que son propre père avait une dépendance lorsque Jagmeet était enfant. Puis Jagmeet, enfant, avait besoin de l'école comme espace sécuritaire pour s'évader un peu de la cellule familiale qui pouvait parfois être un petit peu insécurisante. Donc, il se sent un petit peu interpellé par les enfants trans qui se sentent pas bien dans la cellule familiale. Jagmeet Singh avait aussi dit que toute cette attention négative-là actuellement que certains politiciens offrent à la communauté LGBTQ+, ben, c'est rien d'autre, selon lui, qu'une tentative pour détourner l'attention des vrais enjeux, comme la crise du logement, comme l'inflation, comme l'écroulement du système de santé, donc des enjeux dont certains politiciens préfèrent ne pas parler pour se concentrer sur des enjeux plus clivants, là, comme les enjeux LGBTQ+. J'ai demandé, Denis Martin, par courriel au NPD, c'est quoi, là, clairement, vos positions par rapport aux enjeux queer? Puis on m'a répondu essentiellement tout ce qui est aux antipodes du Parti conservateur, c'est-à-dire que le NPD est en faveur des bloqueurs d'hormones pour les adolescents qui ont besoin de ces soins-là. Le NPD est en faveur de l'inclusion des femmes trans dans les compétitions sportives féministes. Le NPD déplore ce qui se passe aux États-Unis. Le NPD dit même que c'est lâche ce que les États-Unis font à l'heure actuelle à la communauté trans. Et le NPD s'attaque aussi au Parti libéral en disant que le Parti libéral, depuis 10 ans, en a pas fait assez pour assurer des soins de transition de qualité pour les personnes trans partout au Canada. Donc, vous voyez, la posture est assez claire. Puis le NPD a aussi des employés et des candidats-candidates issus des minorités sexuelles et de genre. Donc, voilà, la posture est très claire.
Bon, on va aller au Québec et rapidement, parce qu'on ne veut pas passer sous silence le Bloc québécois dirigé par Yves-François Blanchet. Quelle est la position du Bloc à l'heure actuelle sur les enjeux queer?
Bon, au Bloc, l'enjeu, c'est que je n'ai pas eu de réponse à mes questions. J'ai posé mes questions au même moment qu'au NPD, les mêmes questions, et quand j'ai dit pourquoi on est dans l'impossibilité de répondre à ces questions-là, ben le Bloc ne m'a pas répondu non plus. Alors là, Denis Martin, ce qu'il faut faire, c'est se tourner vers le passé pour comprendre qu'est-ce que le Bloc dit là-dessus. Dans ses plateformes électorales précédentes, le Bloc québécois n'avait pas précisément de promesses ou de positions par rapport aux enjeux LGBTQ+, mais dans l'espace public, le parti a toujours dit « on a défendu les droits des minorités sexuelles puis on va continuer à le faire ». Et j'ai envie de dire que les actions du Bloc sont plutôt alignées sur ce discours-là, entre autres parce que le chef, Yves-François Blanchet, se présente dans les événements de la fierté et aussi parce que l'automne dernier, la porte-parole du Bloc québécois en matière d'égalité des genres, Andréanne Larouche, a souligné le jour du souvenir trans avec une publication sur les réseaux sociaux en disant « il faut se rappeler là, qu'il y a encore du travail à faire pour assurer la sécurité de la communauté LGBTQ+, au Canada. » Donc, les actions parlent et les actions sont cohérentes ici, Denis Martin, avec le discours traditionnel du Bloc québécois. Là où j'ai envie de mettre un bémol, c'est que le Bloc québécois, c'est le parti cousin du Parti québécois au Québec. Dans les derniers mois, on a vu que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, oui, il est allé à la défense des droits des personnes LGBTQ+, mais en même temps, à plusieurs reprises, il s'en est pris ouvertement au mouvement woke. Il a remis en question le programme d'éducation à la sexualité au Québec, a même réclamé une forme de débat public sur cet enjeu-là. Donc oui, historiquement, les souverainistes ont toujours été une famille plutôt accueillante, plutôt avant-gardiste en matière de diversité sexuelle. Mais là, à l'heure actuelle, on n'a pas un discours qui est aussi clair que le discours du NPD. Donc j'ai envie de dire, on regarde ce qui se fait dans le passé, mais on attend peut-être la position claire, la position nommée. Et je termine une petite phrase sur le Parti vert qui s'inscrit pas mal dans la lignée du NPD en matière d'enjeux queer parce que le co-chef du Parti vert, Jonathan Pedneau, est ouvertement gay. D'ailleurs, c'est le seul chef d'un parti majeur au Canada qui fait partie de la diversité sexuelle et de genre.
Merci beaucoup, Alexandre Duval.
T'en prie. Bye-bye.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
31 mars, c'est la journée de la visibilité trans. Il semble bien que cet événement revête une importance encore plus grande ces jours-ci. Avec toute la haine que souffle l'administration Trump aux États-Unis et son ami Poutine en Russie, et qui commence à lever ici au Canada aussi. Pour en parler, nous recevons la juriste Céleste Trianon, qui est fondatrice de Jury Trans et qui milite pour les droits des personnes trans. On la rejoint à Victoria, où elle participe à la conférence
Moving...
À Vancouver, merci de me corriger. Moving Trans History Forward, faire avancer l'histoire trans. Salut Céleste, bienvenue à l'émission.
Salut, merci beaucoup.
Alors, c'est pas la première fois qu'on te parle, mais on est content de te revoir. Parlons d'abord de cette journée de visibilité trans. Quelles sont les barrières qui restent encore à faire tomber, que ce soit légal ou administratif, ici au Canada ou même au Québec?
Bien, malheureusement, les barrières à cette heure sont vraiment significatives, que ce soit comme l'accès aux soins de santé qui revêt souvent des délais extraordinaires ou l'accès à des pièces d'identité, ce qui relève encore une fois de délais, ainsi que juste à la discrimination puis l'inaccès à la justice. Il y en a toute une panoplie d'enjeux qui, à mon avis, c'est des enjeux qui touchent certainement toute la population, mais qui affecte disproportionnellement les personnes trans en tant que communauté pauvre et marginalisée.
Et là, je sais que le gouvernement du Québec avait nommé ce qu'on appelle le comité des sages, je dis sages entre guillemets. Le rapport va sortir bientôt, je pense, à la fin du mois. C'est quoi vos attentes vis-à-vis ce comité ou, en fait, vos craintes peut-être vis-à-vis ce comité?
Absolument. J'ai été informée que le rapport va sortir plus vers le mois de mai. Donc, ça reste secret pour l'instant. Mais c'est sûr qu'avec ce rapport, qu'est-ce que j'ai peur, c'est que, justement, vu que c'est un rapport qui a été rédigé par des personnes qui n'ont eu aucune connaissance au départ sur les enjeux trans, que ce serait plein de désinformation, parce qu'à cette heure, je vais dire, le plus grand danger envers la communauté trans, c'est la désinfo, c'est les informations fausses qui sont créées souvent par des groupes financés à la hauteur de 9, de 10 ou de 11 chiffres à l'international. Donc, on parle vraiment d'un mouvement très, très significatif qui essaie justement de manipuler des personnes en position de pouvoir, telles que ce comité, pour justement pouvoir faire changer les politiques pour que ce soit anti-trans. Et c'est justement ce qui s'est passé aux États-Unis. Puis j'ai peur que ça se reproduise ici.
Bien justement, parlons-en de cette influence des politiques anti-trans qui nous viennent des États-Unis. C'est quoi l'influence que tu vois, Céleste, sur le débat public, les décisions qui s'en viennent ici au Québec et au Canada?
Bien, disons que c'est de plus en plus normalisé d'être haineux. Il y a de plus en plus de personnes qui sont confortables à soit propager des discours haineux, même parfois mettre des menaces de mort contre les personnes trans au Québec. Et on parle aussi de toute autre situation, de juste de haine constante, de menaces, de vraiment juste comme le pire que la société a à offrir envers les personnes trans qui devient de plus en plus normalisé. Donc, c'est vraiment ça qui me fait peur. Et j'ai ajouté aussi sur ça que on le voit aussi avec les discours masculinistes en général, comme avec les discours Sin and Tate qui commencent à prendre beaucoup plus de place dans nos écoles primaires, secondaires, dans nos collèges, dans cégep, université. Ça commence vraiment à brasser. Les professeurs ne savent pas quoi faire. Et disons que c'est les personnes trans qui vont se faire frapper en premier, mais après ça, c'est le restant de l'arc-en-ciel et toutes les femmes et toutes les autres personnes qui ne se confondent pas à des rôles genrés spécifiques.
Oui, c'est très inquiétant tout ça. Juste peut-être un petit aparté. Là, tu voyages à l'intérieur du Canada, tu es parti à Vancouver, mais quelles sont tes appréhensions maintenant avec ce genre de discours aux États-Unis? On va imposer là, que le sexe ou le genre assigné à la naissance soit celui qu'on utilise sur le passeport.
Bien, justement, ça enlève des possibilités. J'en vois des personnes ici qui veulent voyager aux États-Unis ou qui ont les opportunités de job qui vont devoir les amener aux États-Unis ou quand même des conférences, des événements comme ça, qui maintenant se retrouvent en exil de facto. Et j'en vois aussi des personnes des États-Unis qui essaient de migrer ici au Canada. Il y en a beaucoup de réfugiés invisibles, de personnes qui viennent ici pour des motifs semblables à ceux d'une personne demandeuse d'asile, mais sous d'autres types de visas ou même sous une double citoyenneté. Donc, on parle vraiment d'une situation où est-ce que justement les États-Unis vont être un pays relativement sûr à certains égards, à un pays non sûr qui plutôt envoie les réfugiés vers nous autres. C'est du jamais vu.
Ben justement, là, j'aimerais ça te demander, qu'est-ce que les personnes qui sont alliées, qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer les communautés trans au Canada et ailleurs dans le monde?
Je dirais que c'est des choses que vous pouvez faire si vous avez une expertise spécifique. Par exemple, vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous êtes dans une de ces professions-ci. Vas-y, offrir des services spécifiques envers la communauté. Ce n'est pas trop difficile à s'informer. Puis, en plus, la communauté manque de ressources. Donc, d'offrir du temps, ça peut faire toute une grosse différence. Et même pour les personnes qui ne sont pas dans une profession, juste aller faire du bénévolat chez un organisme communautaire ou quelque chose, ça peut faire toute la différence. Et sinon aussi, tiens, pour le monde qui est un peu plus financièrement aisé, je sais que ce n'est pas tout le monde en arc-en-ciel, mais il y a aussi la possibilité à donner à des organismes à but non lucratif ou même à juste des personnes trans eux-mêmes qui en ont souvent besoin, justement parce qu'il se trouve que ça a quand même une grosse portion de la communauté. Selon un sondage en 2019, 58% des personnes au Québec qui gagnent en dessous de 30 000 $ par année, ce sont du monde qui ne sont pas capables de se payer quelque que ce soit. Donc, pour une personne gagnant 15 000 $ par année ou 30 000, 200 pour faire payer, par exemple, une demande de changement de nom, ça peut faire toute la différence dans sa vie.
C'est une très bonne suggestion. Puis je termine, on est en campagne électorale fédérale. Tu as des appréhensions ou qu'est-ce que tu voudrais voir arriver le 28 avril?
Bien, je veux dire, j'ai vraiment, vraiment peur qu'un gouvernement polièvre se forme parce que c'est un parti politique qui s'est ouvertement positionné vers la transphobie et vers la haine. Son leader, Pierre Poilievre, a déclaré ouvertement qu'il y a juste deux genres. Sur la télé, puis a fait la même chose il y a à exclure les femmes trans, les toilettes et les espaces publics, ce qui mènerait justement à ce que le Canada ne soit plus un endroit sûr pour les personnes trans. Il faut se le rappeler, c'est le fédéral qui contrôle le droit criminel. Donc, ceci veut dire que si un gouvernement fédéral décide de criminaliser, par exemple, notre accès aux toilettes ou d'autres choses comme ça, ça s'applique à travers le Canada. Ça fait peur. Et c'est ça qui me fait peur.
Mais
je veux aussi que nos autres partis politiques, tels que les libéraux, le NPD, les Verts, etc., le Bloc même, je veux qu'eux autres se positionnent aussi fortement en faveur de notre communauté. Je veux qu'eux autres parlent ça et soient tellement clairs et non ambigus que les droits trans, c'est les droits humains qui méritent protection et que les personnes trans sont des personnes à part entière qui méritent dignité et des bonnes vies.
Céleste Rianon, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
C'est un plaisir.
Merci. Bouge pas, Céleste.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
Faire une transition, c'est déjà pas facile. Faire une transition quand on a un certain âge, c'est vraiment pas facile. Faire une transition quand on a un certain âge et qu'on habite en région, on pourrait penser que c'est pas facile. On va parler de ça avec Claude Amiot, qui est responsable d'entraide trans dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut Claude, Madame Claude.
Bonjour tout le monde.
Alors, je ne vais pas te demander de donner ton âge, mais tu peux le donner si ça te le tente. J'aimerais ça que tu nous dises à quel âge, toi, tu as décidé que, oh my God, ce que j'ai besoin là, pour être heureuse, parce que tu étais en dysphorie genre, c'était d'avoir une transition. Quand est-ce que c'est arrivé tout ça?
Ben, en fait, la décision d'entreprendre la transition, y avoir pensé, ça date de très loin.
Depuis que tu étais tout petite, puis tu voulais être une femme à ce moment-là.
En fait, écoute, on va me mettre à l'âge de 4 ans.
Ouais.
Je dirais pas mon âge, mais en 1959.
T'es un petit peu plus vieille que moi.
Oui, je vais prendre 70 bientôt.
Ouais.
Alors, j'avais un ressenti pour le côté féminin. J'avais une attirance pour le côté féminin, sans savoir c'était quoi. Parce qu'en fait, dans ces années-là, on ne parlait pas vraiment de ça. J'étais très jeune en plus. Donc, on ne parlait pas de ça. Puis en plus, moi, concours de circonstances, question de maladie, en tout cas, qu'importe, j'ai été prise en charge par mes grands-parents à l'âge de 3 ans et demi à peu près. Fait que, chez mes grands-parents, en regardant la télévision, tout ça, le désir féminin est apparu dès le bas âge.
Ouais. Mais tu as vécu toute ta vie, tu as été marié, tu as eu des enfants. Toute ta vie, tu avais ça en arrière de la tête, mais tu vivais quand même ta vie comme si rien n'était.
Ben écoute, pour dire comment s'est déroulé tout ça rapidement, d'abord, j'ai été pris en charge par mes grands-parents. Ma grande-tante était religieuse dans un pensionnat. Fait qu'à l'âge de 6 ans, quand c'était temps d'entreprendre l'école, ma mère était prête à un cas.
On a un chien qui jappe là aussi. Moi, ça m'arrive quand je fais des entrevues à la maison. Oui, continue.
Alors, ma mère n'était pas prête à avoir les 5 enfants à la maison encore. Elle devait remonter une paralysie cérébrale. Tout ça pour dire elle était handicapée du côté droit suite à un ACV. Alors, on m'a envoyé au pensionnat, ce qui était le plus simple, là, parce que les grands-parents, ça sont bien fins, ils étaient très aimables. Alors, j'étais au pensionnat, l'éducation religieuse. Alors, on a commencé à m'inculquer les normes, hein, les fameuses normes.
Donc, tu as tout refoulé tes désirs à ce moment-là, quand tu étais petit enfant. Tu as tout refoulé ça. Et tu as vécu combien de temps dans cette situation où tu n'étais pas heureuse, finalement, même si tu avais l'air d'être heureuse?
Ben oui, j'avais l'air de quelqu'un de bien, d'épanoui. Mais j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Depuis que j'ai fait la transition, je m'en raconte encore plus à quel point j'ai tenté d'être un homme, d'être un vrai gars. J'ai tout tenté ça. Pensionnaire 6 ans de temps dans un collège chez les religieuses, collège pour garçons. Alors ça a été là où on m'a appris qu'un jour, on se marie, on a des enfants. Fait que j'ai eu la maison, j'ai eu les enfants, le chien, le chat, la piscine. Je fitais d'un norme qu'on m'avait enseigné. Donc, j'ai vraiment propulsé ma vie dans les normes qu'on m'avait enseignées en refoulant, évidemment.
Ça a duré combien de temps avant que tu dises « Ah non, ça ne peut plus continuer de même? »
En fait, dans ma tête, ça faisait longtemps que ça me le disait, mais à l'âge de 61 ans...
61 ans.
J'ai pris la décision, donc c'est terminé, j'ai fini, je ne peux plus vivre ça. Et j'ai commencé ma transition médicale à 62 ans.
Et là, on est quand même, puis c'est pas, je ne veux pas qu'on pense que c'est le regard de Montréal sur une région, mais c'est toujours plus difficile d'avoir des services, surtout des services spécialisés comme ça dans une région. Tu as trouvé ce que tu avais besoin, toi?
Oui, je suis très débrouillard. J'ai cherché à avoir les services chez nous. Bon, pour faire une affaire vite, j'ai encore 61 ans, on est au mois de fin novembre, début décembre, je vois mon médecin. Là, je lui fais mon coming out, en fait. Là. Je me dévoile, j'écoute, j'ai un mot sur mon papier, je faisais ma petite liste d'épicerie quand je vais chez le médecin, j'étais de bobo tout le temps. Puis il me reste ce matin-là, mon médecin dit, c'est plaisant, aujourd'hui, j'ai le temps de m'occuper de mes patients. Il dit, OK, c'est aujourd'hui. Il me restait un mot, j'ai eu un petit peu de misère à lui dire, mais à un moment donné, je lui ai dit, écoute, le dernier mot, c'est féminin. Quelle merveilleuse personne, tout de suite, elle s'est même parlé au féminin, elle m'a préparé les papiers qu'il faut. Donc, j'ai déposé une demande pour l'hormonothérapie chez nous, à la clinique d'endocrinologie chez nous. Mm-hmm. 3 mois plus tard, je revois mon médecin, mais en fait, au mois de mars, je revois mon médecin, elle dit, as-tu des nouvelles? J'ai dit non, elle dit, je vais aller relancer. Finalement, le lendemain, j'ai rappelé au bureau de médecin, j'ai envoyé donc mon dossier à une clinique à Montréal, j'avais eu une référence à une clinique à Montréal.
Oui, parce que la chirurgie ne se fait pas en région, elle se fait surtout à Montréal.
Non, je ne parle pas de chirurgie, je parle juste de mono. Là.
OK.
Non, ça, la chirurgie, c'est juste Montréal.
Ouais.
Puis depuis peu, il y en a à l'extérieur de Montréal au Canada. mais il y a moins de 3 ans, c'était uniquement Montréal pour les chirurgies, là, pour le Canada au complet.
Fait qu'il fallait être débrouillarde pour arriver jusque-là. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais ça qu'on parle de... Tu fais ce changement-là. Qu'est-ce qui est différent? D'abord, ton épouse reste avec toi. Elle avait marié une personne identifiée homme et maintenant, elle finit sa vie avec une personne identifiée femme. Comment ça s'est passé, ça?
Ça c'est... En fait, je veux dire, on a commencé à fouiller l'Internet, tout ça, là, tu sais, l'arrivée de l'Internet, des réseaux sociaux. Au début de ma cinquantaine. Autrement dit, on a fouillé presque 12 ans de temps, de 10 ans, 11 ans de temps, fouillé les solutions, etc., pour voir comment je pouvais guérir mon mal, si on peut le dire comme ça. C'est pas une maladie, là, mais soigner ce mal-là quand même qui est intense. Et j'ai eu la chance avec la conjointe actuelle, qui est ma deuxième épouse, j'ai eu la chance qu'elle m'accompagne tout au long du processus. Et comme tu disais tout à l'heure, en région, une transition se fait bien parce qu'on reste avec nos amis, on reste avec notre entourage. Ce n'est pas tout le monde qui reste, mais c'est comme partout ailleurs.
Mais ça, c'est des préjugés de croire que c'est pire en région. C'est ça, je pense que c'est ça qu'il fallait qu'on dise aujourd'hui. C'est des préjugés, hein, parce que toi, tu ne quitterais pas ta région pour être plus heureuse. Tu es heureuse ou tu es?
Ben oui. Puis je me dis, en fait, le principe est simple. On m'avait dit, ah, tu devrais faire ça à Montréal. Ben oui, mais c'est parce que je me suis menti toute ma vie, façon de parler. Là, je me suis caché toute ma vie. Au moment où je me révèle, m'allais me cacher à Montréal. Ça marchait pas.
J'aimerais revenir sur une anecdote que tu m'as racontée, puis je pense que c'est important de le dire. Tu m'avais dit, là, un jour, je suis sorti, puis là, je me suis rendu compte que, oh, ma sécurité est différente maintenant que je suis une femme.
Effectivement, ça là, dans la transition homme à femme, ça a été une réalité assez frappante de me rendre compte à un moment donné, ah, maintenant que je suis femme, je ne peux pas me présenter dans n'importe quel bar, dans n'importe quel endroit, il faut que je fasse attention. Les ruelles, on oublie ça. Tout le minding, tous les avantages,
les privilèges d'être un homme.
Les privilèges du gars, à un moment donné, il faut les réfléchir.
Et ça, c'est vrai aussi à Montréal en passant, ça c'est vrai dans toutes les régions du monde.
Oui.
Claude, je pourrais passer des heures avec toi. Tu as tellement d'histoires à raconter. Puis Claude est très impliqué dans tout ce qui s'appelle entraide pour les personnes trans dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, si vous passez dans le coin, moi, je vous invite à chercher son numéro, de l'appeler, puis elle va vous raconter tout ça. On va refaire ça bientôt, Claude. Merci beaucoup d'avoir été là.
Quand tu veux, quand tu veux.
Merci, Claude Amiotte.
Hey, bye-bye.
Bye-bye. De retour, donc, après la pause.
Heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. En toute fluidité, mieux comprendre notre monde.
La plus gentille des travailleuses sociales du Québec, Marie-Claude Johannis, comment ça va?
Hey, mon Dieu, j'ai de la pression!
Mais t'es gentille, puis c'est le fun de te jaser.
Mais peut-être pas la plus, mais bon... là, Denis Martin, il y a 2 semaines, on a parlé là, de l'instrumentalisation en politique des réalités, des enjeux LGBTQIA+, particulièrement les personnes trans non binaires. Là, on va faire un petit cours 101. On va se rappeler nos bases des mouvements sociaux.
Tout à fait.
Pour se rappeler le pouvoir qu'on a, parce qu'on a un crime de gros pouvoir, l'air de rien. Et là, donc, mon Dieu, la base des mouvements sociaux, hein, ce qu'on peut faire comme collectivité, donc, c'est des mobilisations pour changer l'opinion publique. OK, présentement, il y a eu beaucoup, on en a parlé il y a 2 semaines, il y a eu beaucoup de campagnes, il y en a encore, de salissage pour les drags, les personnes trans, etc. Donc, par contre, de l'autre côté, on peut aussi sensibiliser les gens et on le voit énormément, entre autres à travers des artistes connus qui, sur les réseaux sociaux, prennent parole et disent « Hey, un instant, l'amour, c'est important, le respect, qui parlent de leur fille, qui parlent de leur propre réalité. » Et ça, ça a un grand impact aussi dans l'opinion publique. Il y a aussi le lobbying direct. Et ça, nos organismes vont le faire beaucoup. Donc, quand il y a des lois qui sortent qui n'ont pas d'allure, par exemple sur la gestion des réalités des personnes trans ou de leurs droits civils, etc., bien là, les organismes vont voir les ministres et autres et disent, ben là, ça n'a pas de bon sens ce que vous faites parce que telle raison, parce que ça fonctionne de telle façon. Donc, ça, c'est du lobbying direct et ça, les organismes le font très bien. Il y a aussi, et ça, moi, j'adore, les actions de désobéissance civile.
Ah oui.
Alors, il y a des exemples.
C'est très visuel, ça fait de l'action, ça laisse pas indifférent.
J'adore. Donc, moi, un de mes préférés, c'est quand Top Paris, là, en 1993, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, il avait déroulé un énorme préservatif, un condom géant sur l'obélisque à la place de la Concorde à
Oui.
Paris. Wow! Donc ça fait le tour du monde en un coup de clic et c'est très, très efficace. Donc, et voilà. Donc, ça a été là 1 heure, hein, mais on en parle encore. Et finalement, bon, l'utilisation des stratégies des médias, donc dont les médias sociaux, hein, qui sont très efficaces, un couteau double tranchant, pardon, mais c'est quand même très efficace.
Donc, il y a
Donc, au niveau.
plusieurs actions qu'on peut faire, mais au niveau local, qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau, en fait,
Ben, au
ouais.
niveau local, là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et là, tu sais, il n'y a pas de petits pas. Là, ça, on ne le dira jamais assez. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, je ne suis pas une militante à aller tenir des pancartes. » Mais parfait, parce que tenir des pancartes, c'est une action. Il y en a 50 000 autres. Puis ça prend des gens qui font de la soupe pour le monde qui tient des pancartes. Bon. Au niveau local, ben, il y a de l'éducation populaire dans vos milieux. Premièrement, là, parlez autour de vous, dans vos écoles. Moi, comme travailleuse sociale, toi, à la radio, on a tous un pouvoir autour de nous. Plus concrètement, on peut aller dans nos municipalités. Donc, parce que quand on fait passer dans nos écoles, dans nos conseils de parents, etc., quand on fait passer des façons de faire, donc des espaces sécurisés pour les jeunes, ou dans les municipalités, quand on fait par exemple la levée du drapeau, le 17 mai, etc., ça a des impacts au niveau local. Donc, on peut faire changer les politiques municipales, les entreprises, scolaires, etc.
Au niveau
Et maintenant,
national, oui.
ouais, au niveau national, bien évidemment, là, il va y avoir tout ce qui est grève, manifestation de masse, donc vraiment là, des manifs avec les pancartes, les campagnes de sensibilisation, donc par exemple Interlink va faire, etc. Et donc militer au niveau de changement législatif, donc hein, le mariage gay en est un excellent exemple, les familles homoparentales, donc l'insémination assistée, etc. Il y en a eu plusieurs qui ont été faites. On peut pousser aussi pour faire démissionner des ministres. Donc, des choses comme ça.
Et on parlait à
Et
l'international.
ben là, à l'international, dernièrement, on a vu là, vraiment tout le mouvement de boycott, donc de marques américaines, de compagnies comme Google, etc.
Et ça marche. Et ça marche.
Oui,
Il
ça
y a, on
fonctionne, ça
voit
a un
des...
impact
Ouais.
majeur. Il y a nos fonds de pension là, qu'on oublie trop souvent. Là, ça, c'est beaucoup d'argent qui dort et les compagnies fonctionnent avec des actions. Si on retire l'argent qu'on a tout le monde ensemble de ces lieux-là, ça a énormément d'impact. Donc, pression sur les accords internationaux. On l'a vu aussi avec l'Ukraine dernièrement. Donc, il y a eu beaucoup de pression, entre autres, sur l'Europe pour dire, hey, nous, on veut que vous appuyiez l'Ukraine, etc. Et ça a fonctionné. Donc, par exemple, le mouvement Black Lives Matter, c'est un excellent exemple aussi. Donc, c'est vraiment les populations, c'est les gens qui ont bombardé partout pour dire non, on n'accepte plus la violence policière envers les personnes racisées. Il y a, arrêtez de dire que c'est pas vrai, les personnes racisées sont beaucoup plus violentées, voici les faits. Et donc, ça a conduit à des réformes policières dans plusieurs pays au monde. Donc, on a un pouvoir.
Oui, et c'est un pouvoir qu'on peut aller exercer sur ces merveilleux réseaux sociaux.
Ouais, les réseaux sociaux, c'est toujours à double tranchant, on le sait. Par contre, ça permet une diffusion virale. Là, on le sait présentement, là, les réseaux sociaux, à cause que ça appartient à Meta, puis que Meta est en lien, bon, avec les États-Unis, puis que de plus en plus ils contrôlent, on sait que ça va changer prochainement. On sait qu'on est un peu sur la fin de ça, mais quand même, c'est encore efficace. Donc, particulièrement Twitter, en fait, ça permet d'envoyer des informations rapidement qui se propagent vite. On sait que les campagnes américaines ont été beaucoup reposées sur Twitter. Facebook, ben, les événements Facebook, ça demeure quelque chose qui est accessible, que les gens connaissent bien puis qui se publicise très bien. Sur Instagram, ben, il va y avoir beaucoup par rapport à l'image. Donc, on sait qu'une image vaut mille mots. Donc, des photos, des éléments de sensibilisation, ça fonctionne très bien. Et il ne faut pas négliger TikTok maintenant parce que les jeunes sont sur TikTok. Il y a énormément d'activisme LGBTQIA+ de cette génération-là sur cette plateforme-là.
Et reste qu'il y a des défis, hein, des informations, la vie privée, c'est quand même compliqué tout ça, là.
Oui, effectivement. Donc, on le sait, là, il y a beaucoup aussi de désinformation sur Facebook. Donc, la régulation des algorithmes aussi, c'est pour ça que je vous dis qu'on est un peu sur la fin. On s'en rend compte là, que ce qu'on publicise est de moins en moins vu, puis qu'il y a un petit peu de contrôle également. Donc, mais ça demeure pour l'instant quand même quelque chose d'efficace. Donc, les grands défis pour tout le monde, c'est, j'en ai parlé aussi il y a 2 semaines, c'est de ne pas fragmenter les causes. Donc, évidemment qu'il y a plusieurs éléments plus spécifiques. On le dit souvent, la communauté LGBTQIA+, c'est une grande communauté. Il y a des enjeux très variés, des réalités très différentes d'une personne à l'autre. Donc, parfois, c'est le temps de faire front commun et de faire wow, c'est assez, et de prioriser certaines luttes en groupe. Et à certains moments aussi, ça n'empêche pas que certains groupes ont besoin de se retrouver, par exemple, les personnes non binaires entre elles, les familles homoparentales entre elles, bon, etc. Les personnes atteintes du VIH/SIDA ou de d'autres réalités de santé, etc. Donc, ça n'empêche pas. Mais par contre, il faut savoir être solidaire puis s'allier ensemble. Ensuite, ben, on l'a vu, hein, il y a eu beaucoup de répression. Donc, on le voit aux États-Unis énormément. On l'a vu aussi beaucoup, entre autres, au printemps érable, quand il y a eu beaucoup de manifestations, tout le monde sortait avec ses casseroles. Puis là, bon, il s'est mis à avoir plein d'arrestations. Le gouvernement a passé des lois anti-manifestations. Donc, on le voit beaucoup. Donc, il faut résister. Et habituellement, là, comme au printemps érable, ben, la loi a donné raison là, aux manifestants. On a encore le droit de manifester. On a la liberté d'expression, d'opinion et de manifestation. Donc, c'est un droit sur lequel repose notre démocratie. Donc, c'est important de l'utiliser. Il y a aussi des partis politiques, des fois, qui vont récupérer ce que les informations ou les luttes à leur avantage avec de la désinformation. Donc, des fois, ouh, puis ils ont beaucoup de moyens, eux, donc c'est pas toujours à notre avantage. Donc, il faut savoir récupérer ça. Et évidemment, ben, il y a la fatigue, hein? Mais c'est sûr que présentement, avec tout ce qui se passe, ben, il y a comme un regain. Les gens sont outrés, sont comme wow, ça va faire. Donc, c'est un moment là, pour ce. Pour s'asseoir ensemble, puis sortir, puis se mobiliser.
Bien, on va devoir s'arrêter là-dessus, Marie-Claude. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous, et on lâche pas, gang. Ils nous auront pas, ces morons-là.
Merci.
Bye.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Let's make America queer always.
Make America Queer Always, des nouvelles des États-Unis.
Salut Chantal Nadeau. OK, je vais le dire parce que nous, on se voit grâce à la magie de visioconférence. Chantal porte un T-shirt qui dit FAG, fag pour tapette. C'est tellement beau. Salut Chantal Nadeau. Comment ça va?
Salut Denis Martin. Écoute, je l'ai fait juste pour toi aujourd'hui.
Tu me fais un grand, grand plaisir. Alors, je vais rappeler ton titre parce que c'est important de les savoir pourquoi. Tu es professeur au département de ce qu'on appelle Women and Gender Studies, études féministes et de genre, à l'Université de l'Illinois à Champaign, non loin de Chicago. Je le rappelle parce que ton emploi t'a causé récemment des soucis à l'immigration états-unienne lors d'un retour de voyage en Europe. Raconte-nous ce qui s'est passé.
Ben écoute, je suis toujours un petit peu ambiguë par rapport à raconter mes histoires de.
Mais celle-ci, elle est particulièrement importante, je pense.
Ou non, puis dans le contexte actuel, c'est super important parce que tu sais, les profs d'université, on est toujours un peu plus protégés et dernièrement, c'est pas vraiment. Ce qui est arrivé, c'est que bon, je suis revenue sur Paris, passée par l'immigration à Chicago, qui est ma base. Où je vis finalement. Et pour la première fois en 12 ans, je me suis fait demander quel département j'enseignais, quelles sont les matières que j'enseignais. Et ça, c'est la première fois en 12 ans, depuis que j'ai ma carte verte finalement. Et Je te dirais que ça m'a un petit peu refroidi, puis c'était comme, c'était très agressif. On voulait savoir c'est quoi les cours que j'enseignais, gna gna gna. Et c'est particulier parce que ça m'est pas arrivé en 12 ans. Alors voilà,
Mais
ouais.
ça s'inscrit un peu dans une série d'histoires dont on a entendu parler ici au Canada, de professeurs d'université ou de professeurs d'université, d'intellectuels embêtés par l'immigration états-unienne. Alors, des agents ou des agentes saoulés là, de pouvoir et de propagande trumpiste embêtent et harcèlent les visiteurs. Que risquent donc les gens qui se font ainsi interpeller, et là, je le dis bien arbitrairement, de par leur look ou leur profession?
Écoute, je vais être une grosse vache.
T'as le droit. C'est toi qui le dis, hein, je ne le dirai pas, moi.
Non, mais écoute, un professeur de mathématiques qui se fait harceler, non, c'est pas grand-chose. Quand tu enseignes gender studies, queer studies, hein, tu as de l'air queer, ben ça fait un, deux, trois, hein, trois prises. Hein. Je ne suis pas une fan de baseball, non, mais on va dire tout de suite. Mais. Et c'est ça qui me heurte beaucoup en ce moment. C'est comme il y a des gens qui quittent les États-Unis pour aller enseigner au Canada, mais qui sont dans des domaines qui sont super neutres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand tu enseignes en gender studies, American Black Studies, tu comprends-tu?
Ouais.
Et c'est ça qui m'énerve en ce moment. Il y a comme, oh mon Dieu. Et écoute, je veux pas faire du bashing là, mais je suis un petit peu énervée par rapport à ça, je te dirais.
Mais écoute avec raison, là, parce qu'il y a quand même eu des cas où il y a eu même un universitaire français qui s'est fait refouler, mais on l'a interrogé pendant longtemps suite à ce qu'on a trouvé sur son ordinateur. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on arrive à l'immigration américaine, états-unienne, je devrais dire, on peut fouiller à peu près tout, là.
Oui. Mais encore là, Denis Martin, je vais être, comme je te dis, je vais être une grosse vache. En tout cas, hein, voilà. Et c'est comme, tu enseignes les mathématiques, hein, pas grand-chose. Tu enseignes gender studies, dans tes cours, tu enseignes trans studies, tu enseignes black studies. C'est pas la même chose, hein.
Oui, mais c'est parce que
Et c'est.
ce sont des domaines qui sont remis en question par l'administration Trump.
Oui, et ce qui me fascine dans les médias en ce moment, c'est qu'on ne fait pas la différence. Et je m'excuse, hein? Là, je m'énerve.
Oui.
OK, puis là, tu me vois, nos éditeurs, auditrices ne nous voient pas, là.
Ah oui,
Mais là,
je peux décrire les mains en l'air pour on y va, là, oui.
Ouais, puis et je fais comme non, parce que ce que j'enseigne, c'est un peu plus problématique qu'enseigner des mathématiques.
C'est ce qu'on dirait un peu plus subversif, mais ce n'est pas le propre de la liberté académique de pouvoir enseigner des matières qui ne sont peut-être pas des matières populaires aux yeux de certains, mais qui sont nécessaires.
Oui, et l'administration de Monsieur T, que je refuse de nommer parce que tu sais que en ce moment, je suis targeted, hein?
Oui.
Donc je ne vais pas prononcer son nom. Mais en ce moment, ce qui arrive, c'est que pour eux et cette administration-là, c'est très clair que tout ce qu'on fait, tout ce qui est lié à genre, sexualité, race, c'est la merde. Voilà.
Est-ce qu'on peut mettre en prison les gens lorsqu'ils arrivent avec, dans leur ordinateur, contiennent des documents, des exposés, des publications anti l'administration T, comme tu dis? Qu'est-ce qui peut arriver à ces gens-là qui ne sont pas des citoyens ou citoyennes des États-Unis?
Bon, je suis contente que tu me demandes la question parce que j'ai vraiment, ça fait 3 jours que je suis là-dessus. Hein. C'est non-stop. Écoute, moi, tout ce que j'ai à dire aux gens, c'est qu'en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est que il y a une distinction entre votre identité de genre et vos documents officiels. Et là-dessus, on va perdre la bataille, hein? Alors, il faut se protéger. L'autre chose qu'il faut faire, c'est de complètement effacer tout ce qui peut nous exposer en tant que personne non binaire ou queer, blablabla, hein. Il faut vraiment tout effacer et il faut pas avoir de nostalgie, hein.
Oui.
C'est comme, il faut être efficace, tu comprends-tu,
Parce que toi, tu
Denis?
préconises donc la sécurité au-delà de la mobilité.
Oui, oui.
Et puis la sécurité, ben, c'est sûr qu'une personne. Mais c'est parce que on va aller là, puis je veux qu'on revienne aussi à ce qui peut nous arriver. Donc, une personne qui a désormais sur les passeports, les agents d'immigration des États-Unis réclament que le genre ou le sexe assigné à la naissance soit le même sur le passeport, même si on a changé de nom, même si on a une autre affirmation de genre. Ça peut être problématique, ça.
C'est énorme. Et je le dis avec des pincettes, là, puis ça me fait mal au cœur de dire ça, non? Mais moi, je dis à mes étudiants, c'est pas là qu'on va se battre, hein? Fait que pour moi, le truc numéro un quand il concerne la question de immigration, c'est sécurité. OK? Alors, on peut fantasmer qu'on veut être vu comme on veut. Mais comme on est vu comme on veut et comment l'administration nous voit, c'est deux choses. Et on ne va jamais gagner cette bataille-là au niveau de l'immigration. Comment l'État nous voit, c'est ce qui nous détermine. Je m'excuse.
Donc, puis là, je veux qu'on soit très clair. On ne sait pas qu'on veut recommander aux gens de retourner dans leur placard, mais si ils ou elles ou elles doivent absolument aller aux États-Unis, soyez avertis que ça peut être compliqué. Et parfois, il faut faire ce qu'il faut si on a absolument besoin d'y aller.
Exactement. Puis, et comme je te dis, Denis Martin, je le dis, ça me fait mal au cœur, là, t'sais. Mais je le dis parce que c'est comme ces deux choses. Comment on va être vu et comment on est vu par l'administration, c'est deux choses. Il faut vraiment se rentrer ça dans la tête, là. Surtout en ce moment. Avant, Monsieur T, hein, c'était plus facile où on passait à travers les mailles, mais en ce moment, c'est non.
J'aimerais qu'on revienne quand même. Une personne qui n'est pas citoyen ou citoyenne des États-Unis se présente à l'immigration et il y a un bug, excusez-moi, mais c'est un mot français, un bug, BOGUE. Et on dit, ben là, moi, j'ai lu dans ton ordinateur, parce qu'ils ont le droit d'aller fouiller dans votre ordinateur, ça faut que vous le sachiez, dans votre téléphone, ils vont vous demander les mots de passe et vous êtes obligé de le faire, sinon, vous ne pouvez pas rentrer. Alors, ils fouillent là-dedans et trouvent des choses que eux ou elles trouvent problématiques. Il peut arriver quoi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont parlé de cette comédienne qui s'est retrouvée en prison, mais c'est une autre chose, ses papiers n'étaient pas clairement bien faits. Mais qu'est-ce qui peut arriver? On les refoule?
Deux choses que j'ai apprises, Denis Martin.
Oui.
Alors, les gens sont paresseux, hein? Ils veulent toute la reconnaissance digitale. Mais en ce moment, on ne peut pas nous demander d'entrer un mot de passe manuel. Alors, ce qu'il faut faire avec nos téléphones intelligents, c'est qu'on revient à la vieille méthode, hein, c'est-à-dire. Donc, si, comme moi, j'ai aucune reconnaissance faciale, et à cause de ça, ils ne peuvent pas rentrer dans mes téléphones, ils ne peuvent pas rentrer dans mes
Ils peuvent pas
ordinateurs.
exiger le mot de passe?
Non.
OK, ça c'est clair. Maintenant, la personne qui refuse d'obtempérer, on va pas l'acheter en prison, mais on peut la refouler.
Exactement. Mais écoute, je vais te, encore là, c'est mon côté grosse vache, là. Être entrefoulé, puis entre détenu, hein?
Oui, c'est mieux d'être foulé.
Ouais, voilà. Fait que quand j'entends les Canadiens, les citoyennes canadiennes, par rapport, je me dis, non, vous voulez être refoulé à Dorval, vous voulez être refoulé à Toronto, à Edmonton. Tu comprends?
Est-ce qu'on a
Pour moi.
ce qu'on appelle en anglais le pre-clearance? On peut passer les douanes américaines ou douanes, je vais dire états-uniennes à certains endroits, donc Montréal, Toronto, Calgary, Edmonton et compagnie, là.
Oui, et pour moi, c'est comme, tu vas être refoulé là, parce que là, tu t'en retournes chez vous.
Bon,
Tu comprends?
J'aimerais quand même qu'on revienne sur les risques. Il y a beaucoup de pays européens, et même le Canada récemment l'avait fait, qui ne recommandent pas aux personnes queer et aux personnes trans de voyager aux États-Unis. Ça va mal, là.
Oui. Puis, qui ne veulent pas non plus sortir des États-Unis, dans mon cas, tu sais.
Oui, parce que toi, si tu sors, tu ne sais jamais si tu peux rentrer, même si tu as une carte verte, il peut la retirer à tout moment.
Non, exactement. Comme moi, je n'ai pas ma soigneté américaine, en ce moment, c'est tout à fait nouveau, hein. Parce qu'avant, tu sais, avoir la carte verte, c'était comme whatever, tu sais. Ça passait dans le beurre. Maintenant, c'est plus ça. Alors, moi, je dis toujours aux gens, si vous venez ici pour une conférence, machin, hein, il faut que vous soyez prêt à être interrogé et bloqué. Il y a eu beaucoup de dans les médias, on a beaucoup parlé des gens qui ont été arrêtés, qui ont été détenus et tout ça. C'est minime, mm-hmm. Denis Martin. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et moi, je dis toujours aux gens, c'est comme si vous n'êtes pas bétonné. Pourquoi vous venez aux États-Unis? Vous venez pas.
Oui. Puis en fait, voilà. ça commence à paraître. Je lisais aujourd'hui que les réservations pour les États-Unis, des billets d'avion là, dont on parle, c'est pas petit, là. C'est 75 % de moins qu'il y a un an. Et on regarde mois par mois, là, puis cet été, il n'y en a pas beaucoup non plus. On est toujours dans les 75 % de moins de réservations pour aller aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas juste l'immigration, il y a aussi tout ce climat qui n'est pas très confortable non plus pour les gens de nos communautés. Là. Est-ce qu'on a le goût d'aller faire le défilé de la fierté à New York avec tout ce qui se passe présentement?
Non, puis aussi, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de tous ces trucs un peu plus présentés d'une façon un peu plus grande, si tu veux, c'est qu'en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de corporations qui se retirent. Mm-hmm. Hein? Et c'est ça qui se passe à Chicago, à New York, à Los Angeles, à San Francisco, à Austin, Texas. C'est que toutes ces organisations-là se retirent et retirent leur support finalement au LGBTQ+. Et ma réponse à ça, c'est comme, ben, on n'investit pas, on ne donne pas d'argent à ça. Hein.
Oui. Ben oui. Il faut boycotter voilà. Les entreprises qui font ça aussi.
Ben,
c'est
exactement.
Ce que les gens proposent, oui. J'aimerais qu'on termine avec quand même, parce qu'on s'était promis, toi et moi, qu'on essaierait d'être positif à la fin de la chronique. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle cette semaine?
Écoute, il y a un truc qui est sorti le 15 mars avec le ACLU, qui est mon organisation favorite en ce moment, qui font plein de trucs avec les...
L'American Civil Liberties Union, c'est ça?
Oui. Exactement. Et là... Ils ont gagné en Ohio. Iowa.
Ouais.
Ohio.
Ah, oula.
Vince.
Ouais.
OK. Ils ont gagné que finalement, les jeunes trans peuvent passer, ils peuvent réclamer une position non-binaire. Et c'est une grosse victoire. Et c'est pour ça que je veux qu'on parle de ça pour nos prochaines chroniques. Je suis pas intéressée au niveau national. Je suis intéressée au niveau...
Mais tu veux dire quoi? Qu'ils peuvent avoir donc une désignation non-binaire sur leur carte d'identité, c'est ça?
Exactement. Alors, c'est une grosse victoire parce que c'est l'État de Vince.
Oui,
hein?
oui, l'Ohio, oui.
Vince. Alors, c'est vraiment... Puis ça a passé là, pouf! Comme ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut s'accrocher, c'est ce genre de victoire au niveau des États, peut-être petit, pas au niveau national, mais qui permettent finalement de casser le moule. Hein? Alors, c'est une grosse affaire, parce qu'en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'argument qui a été passé en cours, si tu me donnes deux secondes,
oui.
C'est... intégrité corporelle, ça veut dire que ça va aussi affecter toutes les poursuites qui vont se passer au niveau de embryon, oui. Au niveau de avortement,
oui.
Parce que ça veut dire c'est au niveau ce que ça veut dire c'est qu'est-ce qui constitue
l'intégrité corporelle.
L'intégrité corporelle, ça veut dire le fœtus aussi.
Donc, ça aura des ramifications, tout ça. Écoute, on va en parler dans notre prochain rendez-vous. Puis aussi, je pense qu'on va peut-être aborder ces gens qui partent des États-Unis, des personnes queer, qui font des demandes d'asile politique au Canada. Ça sera à suivre aussi parce qu'on commence à en avoir beaucoup. Mais...
Ouais, puis ça, j'ai beaucoup à dire là-dessus.
Bon, ben c'est bien parfait, Chantal Nadeau, avec son beau fag. Je vais juste dire en passant que je ne nomme pas et je ne mets pas de photos de Chantal sur les réseaux sociaux, justement pour lui éviter les problèmes, parce que les profs d'université sont suivis par ces gens-là. Merci beaucoup encore, Chantal.
Merci.
Alors, on va remercier l'équipe aujourd'hui. Merci à Godéric Trob, Marie Massé à la recherche. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde de l'émission. Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion. Philippe Lapointe, directeur d'antenne. Marjorie Théodore, qu'on salue, présidente et directrice générale de Vivevoix. Moi, je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci d'être là et on se reparle la semaine prochaine.